Moi qui ai eu la chance de croiser Jean-François Bizeau, c'est un truc qu'il répétait souvent et il voyait, lui, dans la musique jamaïcaine, la source de beaucoup de phénomènes qui se passent aujourd'hui dans la musique moderne.
Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Blondetto. Comment recréer avec des machines la chaleur des 60s? Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rencontrent Blondetto dans son home studio parisien. Ils nous dévoilent, piste par piste, les secrets de son morceau emblématique, le fameux Voices, avec la chanteuse Indy Zara.
Quand j'attaque une session qui va donner le morceau Voices plus tard, je me dis pas je vais faire Voices. Je me dis j'essaye des trucs. Si on regarde mon Pro Tools en détail, je vais avoir 80 brouillons qui traînent tout le temps parce que l'idée c'est ça, c'est d'enregistrer, de voir et de garder ce qui marche. Moi je me considère effectivement plus comme un beatmaker que comme un instrumentiste parce que je suis un mauvais instrumentiste, donc je suis obligé, mon handicap m'oblige quelque part après à les séquencer, à les découper, à aller chercher la partie où ça fonctionne, parce que des fois bon, je suis pas mauvais au point de tout foirer, donc des fois ça fonctionne, donc je vais aller chercher juste cet élément là et comme je travaille sur des formats pop, enfin c'est pas de la musique écrite, je me permets d'aller en prendre, d'aller mettre en loop et d'aller dans ce sens là je suis carrément un beatmaker plus qu'un instrumentiste. Alors ce morceau-là, il a commencé par une idée mélodique. C'était d'abord une trame mélodique parce qu'il y a un fil commun dans les morceaux que j'aime dans le reggae, dans les morceaux jamaïcains. C'est souvent plus de la soul jamaïcaine que du reggae parce que c'est des fois même des covers de standard soul. Et ce que j'aime, c'est quand l'harmonie nous emmène sur quelque chose d'un peu mélancolique. Donc ce que j'ai cherché, c'était une grille d'accords qui soit assez simple. On peut appeler ça un one-way quand ça trace tout le long de la chanson sur la même grille d'accords. C'est pas très compliqué en termes de structure, voire carrément simple. Mais par contre, voilà, il y avait cette descente d'un demi-ton. Et au départ, c'était juste ça, vous, ici. C'était des accords de guitare, des skank. En fait, on appelle ça, c'est la pompe dans le reggae, le skank de guitare que j'ai posé, mais non pas sur tout le morceau, mais en samplant, en fait, ma propre guitare qui jouait cette grille mélodique. La pompe, c'est vraiment ce qui va mettre ce balancier qui est fait soit au clavier, soit à la guitare et qui marque en fait tous les contretemps. Sur Voices, la pompe, je l'ai voulu un petit peu sèche un petit peu voilà, skinhead reggae. C'est-à-dire, c'est pas le reggae endormi, vert jaune-rouge, grosse dread qui tombe par terre. C'est plutôt encore un truc un peu énergique. La pompe, elle a son importance pour la rythmique. Alors la batterie, c'est, comme je le fais très souvent pour mes morceaux, du bricolage à partir des quelques éléments que j'ai ici. Ce home studio, comme vous voyez, il est en appartement. Je ne peux pas jouer de la vraie batterie. Donc ce que je fais, c'est que je limite les temps d'enregistrement avec soit des phrases courtes que je vais aller répéter en boucle, soit même carrément des éléments simples, des coups. Là, on revient vers la technique du sample, c'est-à-dire que je vais jouer juste un coup de charlet, un autre un peu moins fort pour pouvoir avoir les différentes intensités, et après, je vais les réorganiser comme avec un sampler, en fait. Idem pour la caisse claire, idem pour le pied. Donc, tous les éléments de la batterie sont enregistrés puis reconstruits. Et pour la basse, bah par contre, ça, une basse en appartement, il n'y a pas de problème. Ça peut se jouer au casque, ça peut s'enregistrer au maximum du level sans faire trop de bruit. mais du coup, comme j'ai pas la technique et l'académisme de chaque instrument, bah, je vais jouer des parties de basse un peu comme je les entends et comme je voudrais. Donc c'est souvent un peu bancal, mais l'intention est là. Et la preuve, c'est que sur ce morceau-là, notamment, on avait essayé de refaire jouer la basse par un mec à des vrais doigts, qui sait vraiment faire, et ça donnait pas le même résultat. C'était une partie de basse qui était presque trop sage, du coup, qui était vraiment très bien jouée, mais trop sage, et c'est pas ce que je recherche, moi, dans un morceau, c'est plutôt l'intention, la vibe, on va dire. Les parties de basse, c'est ce qui me provoque quelques insomnies. C'est ce qui m'obsède, en fait, dans la musique, je pense, dans le reggae. Et c'est vraiment problématique. J'ai pas la science de jouer des basses qui vont parler à la partie inférieure du corps et qui vont aller un peu remuer les entrailles, comme ça. J'ai pas cette science-là, donc encore une fois, j'essaye des choses, je vais aller coller deux bouts de trucs ensemble pour arriver le plus proche possible de ce qui me semble être une partie de basse, mais c'est clair que sur les listes de Blondetto, à part certains morceaux qui sont joués par des vrais bassistes, tous les autres, ces basses bricolées me permettent à la fois d'avoir cette touch-là, mais en même temps, c'est vrai que je perds le côté, par exemple, danse du reggae, parce que la basse, elle est là pour t'asseoir dans le dance floor. Mais du coup, c'est vrai que là, une grande partie de mon home studio est occupée par pas mal d'instruments qui essayent de reproduire le son des basses. Donc ça, c'est le Honor Bass 2 qui joue une basse avec juste un petit coupe haut pour avoir que les fréquences basses, mais c'est le son d'un synthé en fait. Et ça marche très bien pour les dubs de type un peu steppa, les trucs qui vont donner du bap. Le stepper, c'est le pied continu. C'est les accordéons, hein, c'est de fabrication allemande du tout début des années 80 et qui est en fait parfait pour restituer le son de la basse parce qu'il utilise les mêmes fréquences. Si on écoute la basse avec la batterie, on va se rendre compte que c'est pas joué dans les temps. Et en fait, ça gêne pas parce que c'est un peu le groove de l'homme sous. Et ça, un vrai bassiste, un instrumentiste, un mec dont c'est le métier de faire de la basse, il pourra pas le faire en fait parce que c'est pas académique comme jeu. Et ça, moi, j'aime quand c'est pas académique. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais aller aimer des producteurs comme Lee Perry, qui sont un peu dans l'espace et qui vont aller, eux, choisir ces segments-là de moments, quoi, où c'est un peu bancal, bizarre, étrange. Sur Wackies, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pas du reggae vraiment classique. Il y a un morceau, par exemple, qui s'appelle Addis Ababa, d'un Wackies All-Star. Je sais même pas qui est le groupe, en fait. C'est les musiciens du studio Wackies qui est à New York et ça donne ça. Mélange de boîte à rythme, de batterie et de reggae étrange. L'étrangeté de ce morceau, c'est vraiment la façon pas académique d'avoir construit un groupe en Jamaïque n'aurait pas joué comme ça. Bon, il se trouve qu'ils ont pris une boîte à rythme et qu'ils ont amené une espèce d'ambiance un peu étrange, mais en fait, le fil rouge, que ce soit des productions jamaïcaines, new-yorkaises ou même des Jatari ou des Stand-By Patrol en France, ce que j'aime dans tout ça, c'est le pas de côté, en fait. C'est juste que c'est pas un groupe de reggae qui va jouer tous ensemble, 3, 4, et on joue, on enregistre. Mais c'est un peu cette façon de faire et de bricoler. Les possibilités sont vraiment multiples. C'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, dans le fait de ne pas savoir jouer. C'est que des fois, l'accident va provoquer des choses heureuses. Je veux dire, même quand j'enregistre une session de cymbales Charlet, pour avoir le bon son, il faut... les batteurs savent le faire automatiquement, mais moi, je vais rechercher le moment où la baguette a vraiment bien tapé, quoi. Donc, c'est un peu du luxe d'aller chercher exactement ce qu'on entend, quoi. Et ça permet, ça, en fait, cette démarche-là, d'être à la fois le producteur et l'instrumentiste de son projet. Un batteur, il sera un excellent batteur, mais il ne sera jamais le producteur de son projet. Il ne va pas jouer comme il voudra que le disque sonne. Moi, à la prise, déjà, je sais comment je voudrais que ma batterie sonne, je sais comment je voudrais que ma basse sonne, etc. Donc, c'est l'avantage certain, il est là. Il est d'être au contrôle dès le départ, dès la prise. ça a commencé vraiment par cette idée de grille mélodique qui est en fait juste une descente d'un demi-ton sur l'accord qui va construire les couplets ensuite. Ce qui a été posé en deuxième lieu dans mon souvenir, eh ben c'est l'élément rythmique, donc c'est la batterie. Puis la basse, et ça c'était vraiment mon brouillon. Voilà. Que je désignerais comme l'arme fatale du studio de Blondetto, bah c'est ce tout petit truc que j'ai dû payer 250 francs à l'époque, un ampli Vox. C'est un petit ampli à lampe qui a un très faible wattage, qui me permet de pas trop embêter les voisins. Mais en même temps, je m'en sers absolument tout le temps parce que tout passe par ce petit ampli avant de rentrer dans le recorder. Que j'enregistre une pianette, une percussion, un bout de voix, une guitare, et ça passera par lui. Et il a ce son à la fois un petit peu pourri, mais en même temps qui amène un peu de chaleur, qui me plaît et qui est un peu le fil rouge de toutes les prods Blondetto. Le brouillon est resté ce qu'il est jusqu'au bout sur la chanson définitive, sauf sur un tout petit élément qui est un piano mélodique en fait, qui est venu faire le lien entre les parties, parce que moi c'était rough, c'est ce que je voulais, c'était un peu dur dans le son, simplement ça l'était trop. Donc du coup, ça sur proposition de la personne qui a mixé le morceau qui s'appelle Black Joy, il m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'on trouve quelqu'un, parce que moi c'était pas forcément ma partie, pour trouver quelqu'un qui allait faire ce lien mélodique. Et c'est ce petit piano qui a été rajouté là. Juste ces petites phrases qui viennent amener les refrains aussi. Alors il a été dirigé, on lui a demandé ça, mais on lui a demandé très peu en fait. La clavinette, elle devrait rester uniquement rythmique. C'est pour moi même une clavinette, c'est l'instrument qui est à mi-chemin entre la batterie et la basse. Elle va aller faire ce boulot un peu de ramener du groove dans le bas. Je me souviens pas exactement le type de clavier qu'il utilisait. En plus, on l'a passé dans pas mal de machines après. Mais c'est cette famille-là, c'est les Rhodes. Voilà, c'est des claviers qui font un son assez doux, avec un sustain, sur une note qui dure. Mais c'est un instrument que moi je trouve vraiment appréciable, le Rhodes, parce que c'est ça a pas d'âge en fait. Il y a encore des prods aujourd'hui. Les Rhodes en hip-hop ont pu l'utiliser. Il y a des trucs très marqués, jazz fusion des années 70 aussi. Dans le reggae, le Rhodes comme le pianette clavinette, c'est des instruments qui sont réels pour moi, dans le sens analogique du terme, dans le sens on entend, si on met un petit peu de saturation, on entend les lames qui crunchent, qui vont aller un petit peu stort comme ça. Et c'est un son que j'aime bien et qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les disques de Blondetto. La prise de voix, j'ai un souvenir un peu extraterrestre parce que Indizara est une artiste. Je dis ça, c'est ni péjoratif, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais simplement je ne me considère pas comme étant un artiste. C'est-à-dire que j'ai les pieds trop sur terre pour être un artiste, mais elle a ce côté un peu mystique de l'artiste où tout d'un coup on a passé une journée enregistrée, les repères ont explosé. On a commencé tôt à 9h, mais on a commencé au Baileys pour chauffer la voix, et puis on n'a pas mangé, et puis c'est parti. L'espace-temps a totalement explosé. Voilà, c'était une journée assez spéciale dans mon souvenir. Et on n'a pas enregistré ce jour-là que le morceau Voices, on en a enregistré d'autres. Indizara, je ne la connaissais pas à l'époque, c'est un ami commun qui nous a présenté, donc on a fait un premier apéro dégustation, écoute des morceaux. On a tout écouté, elle avait pas retenu Voices. Elle a dit, je veux ces trois-là. Elle avait ramené ces trois morceaux. On s'est revus 15 jours après. Elle avait ces trois morceaux qui étaient plus ou moins préparés, mais finalement, elle est partie sur Voices plus ou moins en impro. Elle avait déjà un texte. Mais la ligne mélodique qu'on entend, elle est venue ce jour-là, et Indy ne l'avait pas spécialement préparé. Is good to me, is good to me, my silent breathing in your heart is healing. There's no other way to get inside. Do what you like, boy. Love me for real and it's only shaking in my heart. As the side of your heart
is good to me. Is good to me.
Non, je pense pas qu'on dirige quelqu'un comme Indy Zara. On peut juste lui demander dans... si elle est OK pour en faire une autre. C'est pas de la fausse modestie que de dire on est plutôt à l'écoute quand on enregistre Indy Zara que de penser à la diriger, parce qu'elle amène une petite magie qui se met à faire vivre le morceau. Donc la diriger, ce serait limite, je pense, un peu castrateur, et l'emmener vers un truc qui serait plus elle, et ce serait dommage. Parce que, alors, Indy Zara ou pas, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire en général, c'est laisser filer.
Blue as the sky. Blue as the sky, as the sigh of your heart is good to me, is good to me. Another voice in my mind, another voice inside, speaking words to me.
Moi, je vois pas de référence claire à des morceaux de reggae existants, dans le sens où elle, elle se pose un peu comme une Billie Holiday là-dessus. Moi, je trouve qu'elle a cette espèce de petit vibrato un peu à la Billie. Ça tire le morceau vers la pop, donc c'est, pour moi, c'est plus du reggae pop, du reggae soul jazz. Ici, c'est clairement, pour moi, je le vois comme ça, le seul morceau qui a eu un parcours un peu particulier dans la discographie de Blondetto, c'est-à-dire qu'il a passé le cap des amateurs de reggae. Il m'a permis d'aller toucher d'autres gens, d'aller toucher un autre public, et peut-être même des gens qui n'ont jamais écouté de reggae. Donc si au moins ça peut les amener à écouter quelques bondis, c'est super. Et je pense que ça, c'est dû à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on soit beatmaker ou musicien, c'est la magie. L'explication, j'en ai pas d'autre que par la magie. C'est un truc qu'on peut pas maîtriser et puis qui se passe surtout quand on le cherche pas, je pense. À moins qu'on applique des recettes pour ce qui concerne le reggae, j'ai aucune idée de comment ça peut marcher, quoi. Il y a une volonté d'être vintage de fait par l'utilisation du matériel. Ça sonne vintage parce qu'on n'a que de l'analogique et que de l'audio qui est enregistré en réel. Il n'y a pas de plugin, il n'y a pas toute cette sorcellerie-là de trucs très modernes. Comme moi, j'appartiens à la famille de la bricole, plus, ça m'évite de tomber dans les poncifs et d'aller mettre un costume de soul pour faire de la soul, un costume de reggae pour faire du reggae. Il y a plein d'autres producteurs qui le font et des fois, c'est troublant, parce que je pense à un mec comme Patchwork, Bruno Patchwork, qui a multiples projets, et un de ses derniers, c'est un projet afrobeat qui s'appelle Voilà, avec plusieurs A, et j'arrive pas à savoir si c'est joué par un groupe ou si c'est lui, comme d'habitude, qui fait la musique tout seul dans son studio. Alors lui, pour le coup, la question se pose parce que c'est un vrai, bon, excellent musicien et multi-instrumentiste.
Pas ce que ton père te dit non. Tu n'écoutes pas ce que ta mère te dit non. Tu n'écoutes pas ce que je te dis non. Tu n'écoutes pas ce que les gens te disent non. Tu dis tu sais pas, mais on te l'avait dit. Tu dis tu crois pas, mais on te l'avait dit. Tu n'entends pas, mais on te l'avait dit.
Alors pour moi, la musique, c'est un effet physiologique presque. Je pourrais assimiler ça au bienfait d'un massage, par exemple. Une fois à Cotonou, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit la musique, ça, je lui avais fait écouter quelque chose et c'est beau, ça soigne. Hein, ça soigne. Sa façon de dire que ça lui avait parlé était de me dire ça soigne, et ça m'avait carrément interpellé. Et je m'en souviens depuis, parce que pour moi, la musique, c'est ça. C'est quelque chose qui va nous faire du bien à un moment donné. Soit nous sortir d'une torpeur, soit nous mettre dans un truc agréable et un peu léger. En tout cas, l'effet physique est réel, je pense, sur la musique, en tout cas tel que moi je la conçois. Dans le reggae, ce qui me plaît, c'est d'abord la soul, c'est pas le reggae en fait. Parce que moi, j'écoute pas du reggae d'après 78, j'en écoute maintenant beaucoup. Mais j'ai commencé par écouter du reggae qui était en fait beaucoup de covers de morceaux soul et de standards US. Une compile super pour commencer, c'est Darker Than Blue.
We people who are darker than blue, are we gonna stand around this town and let what others say come true? We're just good for nothing, they all figure. A boy's grown up, shiftless chin. Now we can hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than blue, this ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too.
Mais en fait, c'est juste l'émotion suscitée qui compte, qui va compter. À partir d'un moment où c'est fait avec honnêteté, avec envie et avec humilité, un morceau, il va toucher le cœur. Et c'est ça le but de la musique. Après, il y a aussi des exceptions qui vont venir confirmer la règle, c'est qu'il y a d'excellents morceaux qui vont accrocher les charts, qui vont être à la fois commerciaux et à la fois faits avec le cœur et qui seront aussi des bons morceaux. Voices d'Indizara, c'est un des rares morceaux pour l'instant de Blondetto qui existe en dub et qui était sorti sur Friends version en 2010. La différence entre le dub et l'original, elle est flagrante puisqu'il n'y a aucun son en fait, de l'original qui se retrouve dans la version dub. La version originale, elle sonne roots, elle est donc directement sous l'influence late 60s, early 70s pour le choix des instruments. La version dub, je suis parti dans un délire beaucoup plus digital, donc c'est ambiance années 80. Je pensais pas le sortir au moment où je l'ai fait, c'était une des sessions de home studio où on a envie de s'amuser et on part dans une idée carrément différente pour voir ce que ça peut donner avec des bouts de vocaux et puis ça a donné ce dub qu'on a appelé d'ailleurs 80s style. C'est une utilisation carrément d'une autre gamme d'instruments. On laisse tomber tout ce qui a une référence au bois, tout ce qui est roots, en fait, tout ce qui va sonner comme un matériel vraiment qui vient de la nature, et on se tourne vers les machines. Donc c'est des boîtes à rythme, des synthés, et des basses recréées par des synthés. Pas vraiment le dub de Voices en fait, parce que je le trouve un petit peu léger justement quand on écoute les productions jamaïcaines de l'époque. Moi je l'ai fait avec les moyens du bord et pour le coup c'est une musique, si on veut sonner dans ce registre là il faut vraiment être équipé avec le matos de l'époque. Je n'aime pas vraiment le réécouter parce que d'une part je l'ai fait il y a des années, j'ai passé trop de temps sur l'ordinateur à essayer de mettre des effets, d'en rajouter un à tel moment, mais ça je l'ai fait à vue, en regardant l'écran de l'ordinateur, et c'est pas bon. Je pense que pour faire du dub, il faut vraiment être dans le moment, dans le morceau, ce qui est en train de se passer, c'est la basse qui joue, c'est la basse qui est en train de tourner, c'est là que je la coupe. Le moment magique du dub viendra de ça. Pour moi, le dub, c'est un peu le beatmaking 30 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il y a une façon unique pour moi de faire du dub, c'est tout simplement d'avoir une table de mixage. Chaque instrument est assigné à une voix et assigné à des effets, avec le beatmaker qui est derrière sa console et qui va décider, parce que c'est le bon moment, d'envoyer tel élément et de l'envoyer soit sec, soit dans une reverb, soit dans un delay. Mais en fait, ce process, il est unique. On ne peut le faire que comme ça, je pense. Un vrai dub, c'est à la table en temps réel. Donc c'est selon l'inspiration du mixeur et de l'homme qui est derrière la table à ce moment-là. C'est pour ça que les dubs de King Tubby sont uniques, parce qu'il est le premier à avoir amené cette façon de faire et surtout le résultat magique qu'il en ressort, lui, il est capable d'emmener le truc dans une autre dimension, en fait. Pour moi, il est la préhistoire de tout ce qui va se passer après dans la musique moderne et la musique de danse, mais qu'on peut également écouter à la maison. C'est le fait d'être à la fois l'inventeur d'un nouveau procédé, qui est un remix en direct, en fait, qui est le dub, mais qui peut aussi s'assimiler au DJ et au performeur. C'est recréer une musique unique à partir d'une performance de 3 minutes derrière la table. D'ailleurs, les Jamaïcains sont aussi, par exemple, dans la tradition du MC, les ancêtres des rappeurs. Je pense que la musique jamaïcaine, et on ne le dit pas assez souvent, mais elle préfigure plein de choses. Même le punk, moi j'y trouve des racines dans la musique jamaïcaine. Les londoniens, ils étaient quand même abreuvés de reggae. Et moi qui ai eu la chance de croiser Jean-François Bizot, c'est un truc qu'il répétait souvent, et il voyait, lui, dans la musique jamaïcaine, la source de beaucoup de phénomènes qui se passent aujourd'hui dans la musique moderne. Que ce soit dans le DJing, dans le MCing, dans la façon de faire des remixes, dans la techno, dans beaucoup de phénomènes. Alors dans la vie et hors au studio, un son que j'aime bien, c'est le son du ressort. Parce que même dans les instruments, c'est un son que je vais pouvoir retrouver. Que ce soit dans les pianettes, dans les réverbes à ressort, dans les amplis. Il y a même un instrument aborigène qui est juste ici, qui a un énorme ressort et qui fait un son d'orage magnifique. Dans ma salle de bain, il y a un ressort qui dépasse d'une fenêtre que je pourrais enlever. Hein. Mais non, parce qu'un de mes bonheurs, c'est chaque fois que je vais dans la douche, je lui mets un petit coup et ça fait un son qui fonctionne dans mon cerveau.
Arte Radio.
Tu mets pas des trucs comme ça, hein. Tu vous faites pas des... Ah non, c'est Arte Radio.
Point com.